VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver en ce vendredi 23 mars 2018 en votre compagnie, Jacques Aristide
et Anne Albertson.
Les titres que nous allons développer dans le monde aujourd'hui, Anne.
Au Burkina Faso, le procès du putsch manqué de 2015 à nouveau suspendu.
Au Cameroun, trois personnalités dont un ex-ministre écroué pour malversation financière.
Dans la partie magazine, gros plan sur la visite du premier ministre malien dans le nord du pays.
Nous pensons qu'avec sa venue, ça serait une confiance pour les populations et d'avoir confiance à l'administration.
Il n'y a aucun symbole de l'État malien à Kidal. Le premier ministre à Kidal, il sera sécurisé par qui ?
Ailleurs dans le monde, menace de rétorsion chinoise quelques heures après l'ouverture des hostilités commerciales par le président américain.
Et dans environ 9 minutes, vos rubriques habituelles, la Minute Éco et la page sport.
Au Burkina Faso, l'audience du procès du putsch manqué de septembre 2015 a une nouvelle fois été suspendue, cette fois jusqu'au 26 mars, pour permettre au tribunal notamment de statuer sur une amende, sur une demande de récusation des magistrats de Ouagadougou. Le compte-rendu de notre correspondant Lamine Traoré.
L'audience d'hier a duré un peu plus de 2 heures. Ouverte à 8h30, elle a été suspendue à 10h40 afin de permettre au juge de délibérer sur les observations de la défense, notamment la régularité même du tribunal militaire. Car sur la question, les avocats des prévenus sont restés intransigeants. C'est vrai, ils ne se sont pas retirés de la salle comme au premier jour, il y a 3 semaines. Cette fois-ci, ils y sont restés, mais ont tout simplement refusé de participer au débat à un certain moment. Selon eux, le président du tribunal devrait d'abord statuer sur une demande de récusation introduite mercredi pour contester l'indépendance des juges. Le parquet a jugé les exceptions irrécevables car non fondées. La défense a crié au scandale, trouvant que les juges du tribunal ont été nommés par le ministre de la Justice René Bagoro alors qu'il est parti civil. Pour le parquet, il n'y a aucune irrégularité. Tout cela répond à une exigence légale, fait-il savoir. L'audience a été suspendue à 10h40 et reprend lundi, le temps que le président et sa cour examinent les exceptions et les requêtes des avocats. Pour l'heure, personne ne sait quand les débats de fond vont véritablement commencer. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
La crise humanitaire en République démocratique du Congo s'aggrave et atteint des niveaux catastrophiques dans certaines parties du pays, avec des millions de personnes affamées. C'est la mise en garde hier du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'organe rappelle qu'au moins 13,1 millions de Congolais ont besoin d'aide humanitaire, dont 7,7 millions de personnes en situation de grave insécurité alimentaire. Le nombre de Congolais ayant fui des violences a plus que doublé l'année dernière, ce qui porte le nombre de déplacés à près de quelque 4,4 millions au total. Les Nations Unies ont placé la crise humanitaire en RDC en catégorie 3, le niveau le plus élevé.
Oui, le Conseil qui souligne le besoin de remédier à la présence des groupes armés dans le pays et réitère à son appel pour des élections transparentes, crédibles et ouvertes. Des élections doivent se tenir le 23 décembre dans le pays. En février, des manifestants demandaient au président Joseph Kabila, dont le mandat s'est achevé en décembre 2016, de déclarer qu'il ne se représenterait pas à la présidentielle. Sa position à ce sujet reste floue. Nous y reviendrons dans la partie magazine.
Au Cameroun, trois personnalités, dont un ex-ministre, ont été écrouées à Yaoundé pour malversation financière présumée dans le cadre de l'opération Épervier de lutte contre la corruption. Le point avec John Lyndon.
Trois anciens barons du régime sont placés en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Jean-William Solo pour sa gestion de la Camwater, la société publique de distribution d'eau qu'il avait dirigée de 2012 à 2016. Bruno Bokolo-Ebe, l'ancien recteur de l'université de Douala, est soupçonné de malversation financière. En 2014, une enquête officielle l'avait déclaré débiteur de 2,4 milliards de francs CFA. Louis-Max Owanja, ancien directeur d'une école professionnelle qui dépendait de l'université de Douala, est lui aussi écroué dans la même affaire. Depuis le lancement de l'opération Épervier en 2006, beaucoup d'anciens patrons et ex-ministres sont tombés au nom de la lutte contre la corruption. Un ex-premier ministre, Inoni Ephrem, purge 20 ans de prison pour détournement de plus de 1,68 milliard de francs CFA. Marafa Amidou Yaya, puissant ex-ministre de l'Intérieur, est lui aussi condamné à 20 ans de prison pour détournement des deniers publics. Souvent cité comme un successeur potentiel de Paul Biya, il dit être victime des règlements de compte politiques.
Amnesty International dénonce les dangers qui pèsent en Mauritanie sur les défenseurs des droits de l'homme qui combattent la persistance de l'esclavage et des discriminations dans ce pays. L'esclavage a officiellement été aboli en 1981 en Mauritanie, mais jusqu'à 43 000 personnes y étaient encore victimes de cette pratique en 2016, soit environ 1% de la population d'après un rapport de l'ONG présenté à Dakar. Les lois n'ont pas été mises en œuvre ni appliquées de manière adéquate, a déploré Alioune Natin, directeur régional de l'ONG.
En Somalie, au moins 14 personnes ont été tuées hier dans l'explosion d'une voiture piégée devant un hôtel populaire de Mogadiscio. L'attaque a été revendiquée par les islamistes d'Al-Shabaab affiliés à Al-Qaïda. Yacouba Ouedraogo pour les détails.
Abdi Aziz Ali Ibrahim, porte-parole du ministère de l'Intérieur, dit que le bilan pourrait être plus lourd. Abdi Kadir Abdirahman, directeur des services d'ambulance, a parlé d'au moins 22 blessés. Des témoins ont décrit une voiture piégée qui a explosé à l'heure de pointe sur une grande artère près d'un hôtel fréquenté par des responsables gouvernementaux. La plupart des victimes sont des conducteurs de tuk-tuk, ces tricycles utilisés pour les transports publics. Le porte-parole des opérations militaires du groupe Al-Shabaab a revendiqué l'attaque, ajoutant que parmi les victimes, il y a des soldats et des officiers. Les Shabaab sont aussi tenus responsables de l'attentat au camion piégé du 14 octobre à Mogadiscio qui a fait au moins 512 morts. Cet attentat, le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie, n'a jamais été revendiqué. Les islamistes Shabaab tentent depuis 2007 de renverser le fragile gouvernement somalien qui est soutenu à bout de bras par la communauté internationale et quelques 20 000 soldats de l'AMISOM, la force de l'Union africaine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au lendemain de sa mise en examen, l'ex-président français Nicolas Sarkozy a répondu avec vigueur hier soir aux accusations lancées par l'homme d'affaires Ziyad Takieddine, qui assure lui avoir remis personnellement des fonds libyens pour financer sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien chef d'État a été inculpé hier soir pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. Il dément toutes les accusations dont il fait l'objet.
Le président américain Donald Trump a signé hier un mémorandum ciblant les importations chinoises d'un montant pouvant atteindre 60 milliards de dollars. Il accuse Pékin de concurrence déloyale et de vol de propriété intellectuelle. Abdourahman Dia.
Cette annonce pourrait conduire à une guerre commerciale. Pékin a déjà annoncé qu'elle ne va pas rester les bras croisés. Pour le directeur adjoint du Conseil économique national de la Maison-Blanche, il s'agit de compenser les gains obtenus par les Chinois par le biais de pratiques commerciales déloyales. Everett Eisenstadt a dit que le président va charger le représentant au commerce de publier une liste de produits et des taxes envisagées qu'il compte prendre dans les 15 jours suivant la signature du mémorandum. En 2017, les États-Unis ont enregistré un déficit pour les seuls échanges de marchandises de 375 milliards de dollars avec la Chine. Le président a répété hier avoir demandé à Pékin de réduire ce déficit de 100 milliards de dollars immédiatement. Par ailleurs, les États-Unis avaient ouvert en août 2017 une enquête sur des violations supposées des droits de propriété intellectuelle. Washington s'inquiète en particulier du système de co-entreprise imposé par Pékin aux entreprises américaines. Pour avoir accès au marché chinois, ces firmes sont obligées de partager avec des partenaires locaux une partie de leur savoir-faire technologique.
Et la Chine a en effet tiré ce vendredi ses premières salves contre les États-Unis. Elle menace de droits de douane plus d'une centaine de produits américains. La Chine n'a en aucun cas peur d'une guerre commerciale, a averti le ministère chinois du Commerce.
Le président américain Donald Trump a annoncé hier la nomination de John Bolton au poste très influent de conseiller à la sécurité nationale après le départ de H.R. McMaster et 10 jours après l'éviction du chef de la diplomatie Rex Tillerson. La nomination de John Bolton intervient au moment d'aborder des négociations historiques avec la Corée du Nord et à l'approche d'une échéance cruciale sur l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien dont cet ancien ambassadeur des États-Unis à l'ONU est un grand pourfendeur.
En Syrie, un premier convoi de combattants rebelles a évacué hier la Ghouta orientale, une première depuis le déclenchement d'une offensive du régime syrien déterminé à reconquérir les derniers territoires, au moins des insurgés aux portes de Damas. Le pouvoir syrien et son allié russe ont passé un accord avec le groupe rebelle islamiste Ahrar al-Sham pour l'évacuation de Harasta, la plus petite et la moins peuplée des trois poches rebelles qui subsistent dans la Ghouta orientale. Raids aériens et tirs d'artillerie ont continué hier sur d'autres localités et ont entraîné la mort de 39 civils, dont 25 ont péri dans des frappes aériennes sur la ville de Zamalka, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. De leur côté, les rebelles tirent obus et roquettes sur Damas et 4 personnes sont mortes dans la capitale hier, d'après la télévision d'État. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Sans plus tarder, un tour d'horizon de l'actualité économique en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Les institutions de microfinance en Côte d'Ivoire ont réalisé un bénéfice net de 5 milliards de francs CFA après 10 ans de déficit. Selon le ministère ivoirien de l'économie, les banques des pauvres, comme on les surnomme, totalisent 1,3 million de clients et plus de 34 milliards de francs CFA de fonds propres à fin 2017. Au Togo, à l'issue du Conseil des ministres hier soir, Komi Klassou, le Premier ministre, a appelé chaque ministre à tout mettre en œuvre pour accroître la capacité d'absorption des crédits d'investissement et à s'y impliquer davantage dans leur gestion. La sortie du chef du gouvernement togolais fait suite à l'annulation de 3 crédits de la Banque islamique de développement qui n'avaient pas été consommés. Les administrateurs de la Banque ouest-africaine de développement ont approuvé de nouvelles opérations, dont 15 prêts à moyen et long terme, pour un montant total de 190 milliards de francs CFA et une prise de participation pour un montant de 5 milliards de francs CFA. Ces opérations portent à plus de 5 100 milliards de francs CFA le cumul des engagements de la BOAD depuis le début de ses activités.
Et maintenant, le billet sportif, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Les représentants africains au Mondial 2018 commencent leurs matchs amicaux aujourd'hui.
Ce sont des journées FIFA qui sont particulièrement suivies, surtout pour les mondialistes qui veulent faire bonne mine. Côté africain, le Nigeria fera face à la Pologne. Les Lions de l'Atlas jouent la Serbie en Italie sans le milieu de terrain marocain du Real Madrid. Achraf Hakimi, blessé dès la première séance d'entraînement. Le Sénégal affronte l'Ouzbékistan. La Tunisie fait face à l'Iran et l'Égypte de Mohamed Salah défie le Portugal de Cristiano Ronaldo.
Hier, le Burkina Faso a battu la Guinée-Bissau.
Les hommes de Paulo Duarte ont plié l'affaire en première période. Cyril Bayala a ouvert le score à la 35e minute avant qu'Aristide Bansé ne double la marque 3 minutes plus tard. Dans les autres rencontres, bonne nouvelle pour vous Jacques, l'île Maurice a battu Macao 1-0. L'unique réalisation a été signée Kevin Brou à la 18e minute. L'Algérie a été sans pitié devant la Tanzanie. 4 buts à 1 au stade du 5G à Alger.
Le Maroc peut compter sur la France pour sa candidature au Mondial 2026.
Hier, la Fédération royale marocaine de football a annoncé le soutien de la Fédération française de football. Une rencontre a eu lieu à Paris entre Faouzi Lekja et Noël Le Graët de la FFF. Mercredi déjà, c'est François Hollande, ancien chef de l'État, qui a annoncé que son pays serait derrière le Royaume. Le Maroc est en compétition avec le trio États-Unis, Mexique et Canada pour cette organisation dont les résultats seront annoncés au mois de juin prochain.
Ibrahimovic arrive en MLS.
Jacques, c'est une fin hollywoodienne pour un buteur hors pair. Zlatan Ibrahimovic, simple figurant à Manchester United depuis une blessure à un genou, va rejoindre à 36 ans le Los Angeles Galaxy. D'après le magazine Sport Illustrated, l'attaquant suédois va s'engager avec le Galaxy jusqu'au terme de la saison 2019. Son salaire annuel est évalué à 1,5 million de dollars, le maximum autorisé dans le championnat américain de football. Le Colosse pourrait faire ses débuts à l'occasion du derby le 31 mars entre le Galaxy et Los Angeles FC. NBA, pour terminer avec vous, Jacques, quelques résultats de la nuit dernière.
Eh bien, les Rockets de Houston l'ont emporté par 100 points à 96 sur les Pistons de Détroit. Ailleurs, Philadelphie 118, Orlando 98, Los Angeles Lakers 125, la Nouvelle-Orléans 128, Utah 119, Dallas 112 et Atlanta 90. 10 Sacramento 105.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide avec vous sur VOA Afrique, émettant de la capitale américaine. Au Mali, le Premier ministre Soumaïlou Boubeï Maïga a entamé hier un périple dans le nord et le centre du pays. Accompagné d'une délégation comprenant 8 ministres, il a commencé par Tessalit, où il a rencontré les habitants et les militaires maliens stationnés dans cette localité, proche de la frontière algérienne. Sa tournée doit le mener aujourd'hui à Kidal, ville sous contrôle de l'ex-rébellion, une première depuis 2014. Cette étape hautement symbolique était prévue hier après-midi, mais a été reportée à ce vendredi, officiellement pour des raisons météorologiques. Le chef du gouvernement doit également se rendre à Gao et Tombouctou. Justement, que pensent les habitants de Gao de ce déplacement premier ministériel? Des éléments de réponse dans ce reportage sur place de notre correspondant Boubacar Touré.
La ville de Gao change de décor à l'occasion de l'arrivée du Premier ministre Soumaïlou Boubeï Maïga, l'enfant de la cité des Askia. C'est une opportunité pour les populations de Gao d'échanger directement avec le chef du gouvernement par rapport aux grandes préoccupations, nous ont confié les personnes interrogées.
C'est un événement grandiose que nous attendons depuis longtemps. Les agents de l'État ne peuvent pas circuler librement avec leurs véhicules. Souvent, ils se déplacent en moto et nous pensons qu'avec sa venue, ça serait une confiance pour les populations et d'avoir confiance à l'administration.
On est en train de sensibiliser dans tous les quartiers pour que les gens sortent massivement pour lui réserver un accueil digne de son rang. Personnellement, ça me donne beaucoup d'espoir. On est avec lui, on le soutient, on prie Dieu le Tout-Puissant pour qu'il l'accompagne dans cette mission pour que le Mali puisse se stabiliser.
Mais avant l'étape de Gao, le Premier ministre Soumaïlou Boubeï Maïga se rendra d'abord à Kidal pour être plus proche des populations et pour mieux comprendre leurs attentes. Par rapport à sa visite dans la cité des Ifuras, les avis restent partagés.
Il n'y a aucun symbole de l'État malien à Kidal. Le Premier ministre à Kidal, il sera sécurisé par qui? La force internationale Barkhane MINUSMA, ou ce sont les groupes armés qui sont à Kidal qui vont sécuriser? Parce que l'armée malienne n'est pas à Kidal depuis 2014. Nous pensons que c'est risqué aujourd'hui d'aller à Kidal. La région de Kidal aujourd'hui n'est pas occupée seulement par ces groupes armés. Tout ça rentre dans un cadre purement politique.
Vous savez, Soumaïlou Boubeï, c'est un grand homme, c'est un homme stratège. Il ne va pas se proposer comme ça d'aller à Kidal. C'est parce qu'il sait qu'il peut aller qu'il va à Kidal. Le fait qu'il aille à Kidal, qu'il s'assoie avec les populations, qu'il les écoute, qu'ils échangent, ça permet quand même d'avoir la vision réelle des populations de la région de Kidal. Avec sa venue à Kidal, je pense que ce problème-là sera résolu.
Il ne faut pas qu'il y ait le même bain de sang qui s'est passé avec Moussa Amara. Il veut le faire dans le sens que le gouvernement puisse être à Kidal et que toute la population de Kidal accepte à ce que l'État soit à Kidal. Donc c'est là qu'il aura du pain sur la planche.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Les élections tant attendues en République démocratique du Congo ne finissent pas de provoquer toutes les craintes. La dernière en date concerne la machine à voter présentée le mois dernier par les autorités congolaises. La communauté internationale maintient la pression sur Kinshasa pour tenir le scrutin le 23 décembre prochain et organiser le départ du président Joseph Kabila. Son deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Les États-Unis se sont déjà dit opposés au recours à un système électronique de vote pour la triple élection présidentielle, législative et provinciale. Toutefois, pour Kinshasa, ce n'est pas une machine à tricher, mais une machine à simplifier et à réduire le coût de ces élections. De la capitale congolaise, l'envoyée spéciale de la VOA, Anita Powell, fait le point sur cette controverse. Son reportage est présenté par Arzuma Compaoré.
Le nouveau système électronique congolais vise à faciliter le vote dans une nation aussi grande que toute l'Europe occidentale, mais avec très peu d'infrastructures, un faible niveau d'alphabétisation et plus de candidats aux élections que dans tout autre pays africain. Le vote était prévu d'abord en 2016, mais n'a pas eu lieu. Le président Joseph Kabila est resté au pouvoir à la fin de son mandat. Après les dernières élections chaotiques d'il y a 7 ans, la commission électorale s'est rendue compte que la taille du pays posait de nombreux défis. Jean-Pierre Kalamba, porte-parole de la commission électorale nationale indépendante.
Ici à Kinshasa, quand vous venez de l'aéroport, c'est la circonscription de Tchang, qui avait 1575 candidats. Ça fait que les bulletins de vote qui comportent les noms du candidat, les symboles de son parti, sa photo, les logos de son parti, vous fait une brochure de 53 pages format A3. Ces bulletins-là, ils pèsent plus ou moins 300 grammes.
Les responsables électoraux espèrent que les machines fabriquées en Corée permettront aux gens de voter plus vite. Mais l'opposant Vital Kamerhe, leader de l'Union pour la nation congolaise, a des doutes.
Nous avons eu des explications sur la machine à voter. Les explications de la machine à voter, nous devons être clairs, ça ne nous a pas convaincus. Parce que les tests qui avaient été faits, ce test a démontré qu'il faut au minimum 2 minutes 15 secondes par personne avisée pour voter. Ça signifie qu'il faudra au moins 3 jours pour que tout le monde puisse élire les gens avisés.
Félix Tshisekedi, fils du défunt leader historique Étienne Tshisekedi, est aujourd'hui à la tête de l'UDPS. Le principal parti d'opposition ne mâche pas ses mots.
La machine à voter qui pour nous est une machine à tricher est simplement destinée à faire gagner le candidat qui sera celui du camp Kabila et aux législatives à se fabriquer une fausse majorité comme ils l'ont fait en 2011.
La commission électorale espère que tout sera en ordre lors du scrutin du 23 décembre, mais les tests précédents ont souffert de dysfonctionnements. La lenteur de Kabila dans l'organisation des élections a déclenché de récentes manifestations et une répression brutale qui a entraîné la mort d'au moins 15 personnes. C'est pourquoi, selon les responsables électoraux, le vote doit avoir lieu afin que la nation se prononce et que le cycle d'incertitude et de violence prenne fin en RDC.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le groupe californien Facebook est toujours dans la tempête. Les excuses tardives et les promesses de son patron Mark Zuckerberg sont en effet loin d'éteindre la polémique autour de l'utilisation indue de données personnelles de millions d'utilisateurs par Cambridge Analytica. Cette firme britannique est accusée d'avoir utilisé les informations en question pour développer un outil informatique permettant de cibler des électeurs lors de la campagne présidentielle américaine de 2016. Pour des observateurs, il s'agit de la pire crise jamais connue par le milliardaire de 33 ans dans un contexte de défiance montante face aux mastodontes d'Internet. Michel Quinn de la VOA nous propose d'autres réactions ce matin. Son reportage est relaté par Claire Morin-Gibourg.
Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a présenté ses excuses et a promis d'auditer les milliers d'applications qui utilisent les données de Facebook. Il a promis de mieux protéger les informations des utilisateurs sans élaborer sur les erreurs ou fautes commises par sa société. Les régulateurs et les législateurs aux États-Unis et en Europe attendent des explications sur l'utilisation des données des utilisateurs de Facebook. Un nouveau mouvement est né sur les réseaux sociaux. Il faut supprimer Facebook. Selon certains rapports, les données de 50 millions d'utilisateurs ont été données à une entreprise qui aidait la campagne présidentielle de Donald Trump. Certains experts affirment que cela montre la façon dont Facebook a permis aux développeurs externes d'accéder aux données des utilisateurs. Chris Hufnagel est professeur de droit à Berkeley.
Ils ont toujours déployé le tapis rouge pour les développeurs et leur ont donné beaucoup d'informations sans surveillance. Beaucoup d'entreprises annexes font partie de l'écosystème Facebook, mais Facebook ne veut pas les surveiller. Quand l'un de ces milliers de développeurs se comporte mal, la faute retombe sur Facebook.
Facebook s'est longtemps présenté comme permettant plus de connexions et de démocratie dans le monde. Dans le même temps, le fait que la société recueille des quantités gigantesques de données sur les personnes est un problème, car ces données peuvent être utilisées contre certaines démocraties. Pour les experts, il est grand temps que les nouveaux médias analysent honnêtement ce qu'ils font. Michel De Moy, du Centre pour la démocratie et la technologie.
Il est important pour des entreprises comme Facebook de prendre du recul et de comprendre les répercussions des choix qu'elles font dans leur stratégie financière. Ce n'est pas une stratégie durable. ils vont récolter ce qu'ils ont sémé.
Pour Chris Oufnagl, l'avenir va dépendre de la façon dont Facebook va gérer cette crise et du suivi qu'il va réellement faire.
Facebook has had many controversies. Many it's been able to brush off with an apology.
Ce n'est pas la première controverse pour Facebook. La société a toujours réussi à les surmonter en prônant sa valeur fondamentale de connexion au monde. Mais si les utilisateurs arrêtent de croire ça, Facebook pourrait ne pas survivre.
You're connecting the world and it's a worse. I think Facebook is in trouble.
Cette controverse est donc un vrai défi pour Facebook et ses 2 milliards d'utilisateurs. Et conséquence, l'action Facebook a perdu 35 milliards de dollars à la bourse de New York.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Cap maintenant sur la ville américaine de Syracuse, dans l'État de New York, où un projet de transformation d'une église en mosquée a vu le jour il n'y a pas longtemps. Le nouvel édifice a été adapté au culte musulman. La mosquée nommée Jésus, fils de Marie, fait le plein de fidèles. Petite visite guidée ce matin avec Sabacha Khan de la VOA. Son reportage est rendu par Raïssa Girondin.
La silhouette des immeubles de ce quartier de Syracuse à New York est transpercée de bâtiments en briques rouges, des croissants ayant remplacé des croix fixant les cieux. Ce bâtiment est connu sous le nom de Masjid Essa ibn Mariam, ou la mosquée de Jésus, fils de Marie. Jusqu'à il y a 4 ans, on l'appelait l'église de Sainte Trinité. Une promenade à l'intérieur et un verset du Coran gravé dans le bois dit « Allah pardonnera tout le monde, quel que soit leur péché ».
Je dis toujours que ces murs ont attendu 100 ans pour entendre le Coran. C'est l'impression que j'ai eue dès le début.
Youssouf Soul a fait partie de cette aventure interreligieuse. Il admet que ce n'était pas facile d'entendre l'appel de l'islam à la prière, à la dan, faire écho dans une église.
Certaines personnes étaient très en colère. Des gens que je n'avais jamais vus auparavant étaient fâchés contre moi. D'autres m'ont un peu mis en avant, car je suis américain.
Construit au début du XXe siècle, la Sainte Trinité a servi une population croissante d'immigrants allemands et italiens. Beaucoup ont été baptisés, mariés et enterrés ici. Plus tard, les membres du clergé ont quitté la ville pour la banlieue et ont été remplacés par une nouvelle vague d'immigrants et de réfugiés. Beaucoup de ces derniers étaient musulmans.
Nous avons rompu le pain avec plusieurs groupes différents. Finalement, ils étaient en paix et à l'aise avec l'idée que ça devienne une mosquée.
En 2010, le diocèse catholique romain de Syracuse a fermé l'église dans le cadre d'une réorganisation régionale. Bien que certains étaient prêts à payer 3 fois le prix pour transformer l'église en bar, elle a été vendue à un groupe musulman pour beaucoup moins d'argent pour que Dieu soit toujours loué dans sa maison. La réhabilitation de l'édifice a ensuite commencé. Les bancs ont été enlevés, le bois a été utilisé pour des revêtements de sol, des milliers de croix sur les murs ont été remodelées ou peintes, les croix sur les clochers ont été remplacées et conservées comme un précieux rappel de l'histoire du bâtiment.
Il nous faut toujours des fonds pour remplacer ces lumières, parce qu'il fait un peu sombre ici.
Cette mosquée est très différente des autres parce qu'il n'y a pas de pièces séparant les hommes des femmes. Il n'y a pas d'imam désigné ou une personne pour appeler aux prières. L'idée, c'est que la mosquée appartienne à tout le monde et n'importe qui peut appeler ou mener la prière, même Sajad Samir, 14 ans, venant d'Afghanistan.
Je m'entraînais et les gens à la mosquée m'ont encouragé à faire le azan. J'ai commencé à faire l'appel à la prière pendant quelques jours.
Les réfugiés de plusieurs pays vivent près de cette mosquée, mais elle sert une communauté qui n'est pas uniquement musulmane. Marc Cass, responsable du centre d'apprentissage Northside.
Ils veulent vraiment servir tout le quartier. Leur cuisine est ouverte à tous pour les pique-niques et les événements d'été. Donc ce sont vraiment des merveilleux partenaires qui veulent servir toute la communauté, pas seulement les membres de la communauté musulmane.
Youssouf Soul dit qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit dans les médias, parce que contrairement à ce qu'on pense, l'Amérique a un nombre incroyable de gens accueillants qui acceptent la diversité et aiment les gens pour ce qu'ils sont.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
voilà, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Anne Albertson a dirigé la mise en onde. Anne qui était également avec nous pour la présentation du journal. C'était John Ellison à la technique. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce matin. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente journée sur VOA Afrique.